Nous sommes en compagnie de Lucien Suel, auteur de Blanche étincelle, son troisième roman, et de Jean-Philippe Jacquemin, réalisateur du film Le jardin et le poète, consacré à Lucien Suel. Alors tous les lecteurs qui avaient suivi les aventures de Morissette dans La patience de Morissette sont heureux de la retrouver ici, plus philosophe que jamais, en son jardin hivernal des Flandres. Nous voilà suivant le quotidien de cette charmante vieille dame, lourdement éprouvée par la vie au sortir d'une dépression. Elle tient son journal pour mettre en ordre le passé et le présent. Il est question ici d'une femme, d'un chat et d'une maison à la campagne, traversée par des fantômes et la présence du petit Augustin. Et puis l'amitié s'invite fortuitement avec Blanche, qui, telle une étincelle, fera renaître Morissette au bonheur du partage de la musique, des livres et du plaisir de l'échange. Tout le sel de la banalité quotidienne transfigurée par l'écriture et l'amour des autres transpire à travers les pages de ce troisième roman qui confirme, s'il en était besoin, le talent de Lucien Suel à nous murmurer que malgré tout, la vie est belle. Alors, moi je pense que la première chose, la vie est belle, vous êtes d'accord avec moi, Lucien?
Ah bah oui, je pense que, surtout quand il fait un si beau soleil dehors.
Mais voilà, exactement, c'est le moment de se plonger dans un livre. Avant toute chose, justement, on écoute un extrait de Blanche étincelle, peut-être pour avoir la teneur de ce que vous nous dites.
Je remue des livres en écoutant des extraits des nouveaux disques. Christa Ludwig, Cecilia Bartoli, René Fleming, Kathleen Ferrier. M'assied pour les Kinder Totenlieder. L'eau noire de la Lys coule devant mes yeux. Émile court dans l'herbe. Mon cœur se serre. Ne t'approche pas du bord, petit garçon. Quand le chant s'éteint, je reste au fond du canapé à caresser machinalement le chat. Mouvement de la main dans la fourrure, métempsycose, yeux clos et ronronnement de bouilloire, plongeon en arrière, éclaboussure, caché, gélule, caché, cellule, mauvais traitement, ordonnance, tout rangé, paquet complet dans la tête. La voiture s'arrête devant la maison à 2 heures juste. Échange de bises, en route pour Hasbrouck. On salue Elisabeth qui ouvre des cartons, promenade entre les tables couvertes de nouveautés. Je repère un nouveau Ian Rankin, Blanche est comme moi amateur de romans noirs. Exit Music, dernière enquête de l'inspecteur Rebus. Comptent-ils donc tous à vouloir liquider leur héros? Peut-être une question de génération. J'espère que John Rebus ne souffre pas de la maladie d'Alzheimer. Pour lui, les risques s'orienteraient plutôt vers la cirrhose. Mais non, Blanche, qui a retourné l'ouvrage, nous lit la 4e de couverture. John Rebus va partir à la retraite. Comme Valander, alors. Je la laisse manipuler les nouveautés et vais fouiner dans les étagères. La rafale des tambours, de Carol Hanley. Première guerre mondiale. Ypres. Passchendaele. Amour, pluie et brouillard. Soldats inconnus. Je pose la question à Elisabeth. Oui, c'est un beau livre, une histoire émouvante, dans la région. Mon choix est fait. Blanche emmène Ian Rankin. Café à la taverne flamande et retour à Wittebeck. Cette fois, elle entre avec moi. On enlève les manteaux. Surprise. Blanche me prend par la main et me dirige vers le canapé. Asseyez-vous, Morissette, et fermez les yeux. J'obéis et soudain, caro nommé, la voix de Blanche se déploie, monte et m'entoure. J'ouvre les yeux, elle est debout, près de la bibliothèque, elle chante. Tendresse et détermination se lisent sur ses traits. Je suis saisi par la beauté, une larme coule sur mon visage. Émotion, affection, gratitude. Je ne sais que murmurer « Merci, merci, merci ». Blanche rit, me tend la main et nous voici à la table de la cuisine pour un autre café et un peu de papotage. Voilà, c'est, m'arrêter là.
Bon, non, mais... c'est vrai qu'on était tellement partis dans le texte que voilà, je me disais ça allait continuer encore
mais
longtemps.
Ça continue.
Oui, ça continue quelques...
sur plusieurs...
Sur bien 250-300 pages.
Oui, voilà.
En tout cas, merci pour cette lecture qui nous met vraiment au cœur de votre écriture. Alors, Lucien Suel, vous vous définissez comme un poète ordinaire. Mais alors, c'est quoi un poète ordinaire?
Un poète ordinaire, pour moi, c'est... Bon, c'est pas obligatoirement quelqu'un d'ordinaire.
J'espère,
c'est plus dans le sens de quelqu'un qui range les choses, qui les met en ordre. Voilà. J'essaye de mettre un peu d'ordre à ma façon dans le monde qui m'entoure et aussi dans mes idées.
Donc ça veut dire que vous écrivez pour mettre les choses en ordre.
Voilà, c'est ça, oui, exactement.
Mais alors comment on s'y prend pour mettre les choses en ordre en écrivant? C'est un bon conseil finalement pour nous tous.
Eh bien, il faut se priver de rien, donc il faut capter tout ce qui est dans l'air du temps, tout ce qu'on lit, tout ce qu'on entend, et puis à partir de là, transfigurer les choses par l'écriture justement.
Il faut se transformer en éponge.
D'une certaine façon, oui. Ou alors, il faut avoir un certain âge.
Ah oui, c'est vrai que ça peut aider aussi. Mais je pense que pour arriver à faire fructifier l'expérience de l'âge, il faut d'abord avoir été une éponge.
Oui.
Sinon, ça marche pas.
Oui, bien sûr. Mais de toute façon, pour réussir à me mettre dans la tête de Morissette, puisque en fait, c'est son journal intime, donc écrire le journal intime d'une dame de presque octogénaire...
C'est un rôle de composition.
Oui, composition littéraire, voilà.
Mais d'ailleurs, un petit rappel sur les circonstances de la naissance du personnage de Morissette et de son identité pour tous les lecteurs qui n'auraient pas encore suivi les deux premiers volumes.
Morissette Bossard, c'est un personnage que j'ai inventé dans les années 80. En fait, c'était un pseudonyme que j'utilisais pour écrire des chroniques de poésie ou de musique dans une revue de poésie. Voilà, et puis un jour, j'en ai eu assez d'écrire ces chroniques, et donc il fallait que Morissette Bossard disparaisse, les lecteurs s'étaient habitués à elle, et donc je n'ai pas voulu la faire mourir, sinon je n'aurais pas pu écrire après les romans, mais ça je ne savais pas que j'allais en faire des romans après. Et donc j'ai tout simplement imaginé qu'elle faisait une terrible dépression nerveuse et qu'elle se retrouvait hospitalisée dans un hôpital psychiatrique. Et à partir de là, le personnage est vraiment né, puisque un an après, j'ai eu l'idée de lui faire écrire des lettres. Elle m'a écrit des lettres que j'ai écrites moi-même, bien sûr. Et donc voilà comment a commencé l'histoire de Morissette. Donc c'est un personnage qui est dans ma tête depuis plus de 20 ans maintenant, oui.
Mais par le hasard des rebondissements...
Oui, en fait, après, oui, comme j'ai été invité à faire une résidence d'écriture pour écrire sur le thème de la douleur mentale dans un service de psychiatrie générale à Armentières, eh bien, évidemment, j'avais... Et que je venais juste d'apprendre que j'étais devenu romancier parce que la Table Ronde a accepté mon premier roman, Mort d'un jardinier. J'ai dit, je vais écrire un deuxième roman et le personnage, ce sera Morissette. Et donc, à partir de là, j'ai imaginé sa vie, j'ai imaginé ses parents, tous les drames qui lui sont arrivés dans la vie et à cause desquels elle a cette attitude et cette fragilité. Quoi.
C'est donc pour ça qu'on a l'impression que vous la connaissez très très bien, cette Morissette.
Voilà.
Et oui. Non seulement vous la connaissez bien, mais vous y êtes très attaché.
Oui, attaché d'ailleurs au point d'écrire un deuxième roman, parce que en fait, donc dans La patience de Morissette, là, je m'étais arrangé, sans doute, peut-être pas inconsciemment, pour faire une fin ouverte. Et effectivement, 2 ans après, j'ai voulu reprendre le personnage. Et là, je n'étais pas en résidence d'écriture. Et j'étais simplement, c'était l'hiver qui commençait dans ma petite maison à la campagne, un peu comme elle. Et je trouvais que pendant l'hiver, il n'y avait rien de mieux à faire quand on est à la campagne, justement, que d'écrire. Et donc, j'ai tenu son journal pendant en temps réel. En fait, le journal, le livre a été écrit comme si c'était vraiment le journal, mais simplement avec un an de décalage par rapport à sa sortie. Donc, ce sont les événements qui se sont passés en janvier, février, mars 2011 qui sont dans le livre.
Et finalement, vous étiez en résidence chez vous.
Voilà, c'est ça. Je me suis créé ma propre résidence littéraire. Voilà.
Donc, finalement, c'est pas mal.
La résidence à la maison, c'est très bien.
Voilà, au lieu lieu de chercher à se faire inviter à droite à gauche dans la France entière, restons chez soi et c'est pas mal aussi.
Oui, mais c'était possible parce que c'est l'hiver et que l'hiver, les travaux au jardin, voilà, il n'y a pas grand-chose à faire. Quoi.
C'est vrai, c'est vrai. Alors cette Morissette est une femme des Flandres, c'est important cet ancrage dans les Flandres.
Oui, parce que bon, de toute façon, j'avais déjà cela au départ, parce que moi, j'estime que je préfère parler des paysages que je connais, et comme je suis un peu débutant en matière de romance, c'est plus facile pour moi de décrire les paysages et le ciel du Nord, voilà.
Enfin, débutant au troisième roman, là, c'est bon.
Bah, oui, mais bon, moi, je n'écris pas un roman tous les ans, quand même.
Non, mais bon, justement, à propos de la nature et des Flandres, votre sujet, en dehors de Morissette, c'est quand même la nature. Et Jean-Philippe Jacquemin a fait un film sur vous qu'il a intitulé « Le jardin et le poète ». Alors, Jean-Philippe Jacquemin, pourquoi ce titre ?
Je pense que le jardin, enfin, je pense... La plupart des personnes que j'ai interviewées pour ce documentaire, dans les premières phrases qu'ils prononçaient, parlaient tout de suite de Lucien et du rapport au jardin. Alors, il y a forcément Mort d'un jardinier qui est le premier roman de Lucien, mais il y a aussi énormément d'écrits sur le jardin, et j'avais pas ce titre quand j'ai commencé le documentaire. Mais on a fait la première interview dans le jardin de Lucien. Par rapport à tout ça. Et après, quand Lucien a formulé son rapport au jardin, que les lignes qu'on tire dans un jardin sont comme les lignes d'un roman.
Et sont comme des idéogrammes aussi.
Sont comme des idéogrammes. Bon, tout ça a fait sens et j'ai vu pourquoi le jardin était au centre, pas de l'œuvre de Lucien, mais avait une place très importante dans l'œuvre de Lucien. Donc après coup, j'ai organisé la forme aussi du documentaire autour du jardin, d'où après le nom naturellement est venu Le jardin et le poète.
Et du coup, vous avez découpé en 4 saisons.
Et j'ai découpé en 4 saisons.
Pour coller avec la nature. Qu'est-ce qui vous a séduit chez Lucien Suel ?
L'écriture de Lucien est très, très visuelle, très sonore aussi, et on y retrouve beaucoup d'images mentales, forcément. On y retrouve du rythme, on y retrouve du montage. Donc pour un cinéaste, retrouver ça dans un livre, c'est très important. Et puis, il y a beaucoup d'authenticité dedans qui font adhérer aux propos assez rapidement. Et après, il y a une forme qu'on ne voit pas, mais qui a un effet sur nous aussi. Et tout ça, ça... Forcément, moi, attaché à l'image, au son, au rythme, au montage, et en plus essayer de rattacher à la réalité, ça fait beaucoup d'écho.
Alors, il a été tout de suite d'accord quand vous avez dit on va tourner un film ?
Je ne sais pas si on a parlé de film tout de suite.
Non, je sais. Enfin, c'est vrai que ça s'est fait petit à petit, mais au bout d'un moment, oui, j'ai quand même vu que c'était un film, que ce serait un film documentaire. De toute façon, la première fois on s'est rencontrés, je l'ai rencontré en tant que cinéaste documentaire. Voilà. Ben, oui, parce que bon, on a sympathisé, on s'est rencontrés. C'est curieux d'ailleurs parce qu'on s'est rencontrés pour la première fois au Frénois. J'étais en résidence ici à Fives pour écrire D'Azur et d'Acier. Et il y avait la projection en première d'un film d'Olivier Pagani, et c'est là qu'on a fait connaissance, quoi.
Et pas dans un jardin.
Et non, non, on a fait connaissance en ville.
Et oui, effectivement. Alors, Jean-Philippe Jacquemin, c'est une association, Les Créations du Lendemain, qui a produit le film, donc, en autoproduction.
Oui.
C'est pas facile de produire comme ça.
Non, non, non. Il y a pas mal de systèmes ici, dans le Nord-Pas-de-Calais, pour produire des films, mais il y a une discipline à avoir. Forcément, un documentaire, il y a une écriture derrière. Donc
vous pensez au CRAV ?
Au CRAV, oui. Oui, principalement. Il y a une discipline, même quand on fait un documentaire pour soi, il y a quand même une discipline. Mais je veux dire, pour le CRAV, il y a des dossiers à passer. Il y a énormément de choses à écrire pour demander d'être aidé. Et là, pour le film de Lucien, je me lançais complètement à l'inconnu, puisque au début, je ne connaissais pas beaucoup le travail de Lucien. Je me suis documenté, j'ai commencé à lire beaucoup pendant le tournage, qui a duré quand même un an. Donc c'est très très dur d'écrire un dossier et sachant que le tournage va durer aussi plus d'un an, et au final le travail a duré 2 ans sur ce film-là. C'est sûrement quelque chose qui peut se faire et que je pourrais faire par la suite quand j'aurais plus d'expérience. Mais là, la production associative était plus appropriée, même si c'est un documentaire qui fait 52 minutes, qui est le format télé.
Oui. Tout à fait.
Professionnel.
Oui, c'est sûr que c'est pas très facile tout ça. Alors, Lucien Suel, la banalité, c'est ce qui nous rattache au présent et nous évite de sombrer, dans la mesure où on le sent très très fort dans Blanche Étincelle.
Ben oui, en fait, étant donné la forme que j'avais adoptée, qui est une forme de journal intime, donc c'est au jour le jour, c'est vraiment le quotidien, et c'est la poésie du quotidien. Des objets, des animaux familiers, des saisons, du temps qu'il fait, et tout ça aussi en fond tout ce qui est dans la tête de mon héroïne et tout ce qu'elle a vécu, et puis aussi son attachement à la vie. Et voilà, donc c'est vrai que ça peut être, c'est à la fois un roman du bonheur, un roman de la banalité, mais c'est aussi, ça pourrait même être aussi un témoignage sur comment on vit dans certains endroits à notre époque. Voilà. Et en plus, là-dessus, il y a une histoire aussi d'amitié qui naît, et puis le fait que, c'est aussi montrer que rien n'est jamais définitivement perdu, et que Morissette, en dépit de son âge et tout ce qu'elle a vécu, elle fait la découverte de l'amitié, de la joie de vivre, vraiment très tardivement, mais bon...
Mais c'est grâce à ça qu'elle s'en sort. C'est l'amitié avec Blanche et puis, puis ce petit gamin qui est, dont elle finit par devenir la grand-mère par procuration.
Oui, c'est ça. En fait, on a une personne qui a toujours vécu dans la solitude et qui, très tardivement, se trouve une famille. Quoi. Voilà. Elle n'a jamais eu d'enfant. Elle n'a jamais... on pourrait dire qu'elle n'a jamais connu l'homme d'une certaine façon. Mais en même temps, là, elle devient... elle trouve une famille, quoi.
Et elle s'épanouit. Alors la musique tient une grande place dans la vie de Blanche, j'imagine que dans la vôtre aussi.
Oui, alors j'étais amené à parler de... Blanche est une chanteuse lyrique, elle est professeure de chant lyrique, et c'est un domaine que je connais très mal. Et je suis plutôt, ceux qui me connaissent savent que je suis plus guitare électrique et rock'n'roll, quoi. Mais il se trouve que ma fille aînée fait du chant lyrique, et donc m'a initié aussi, voilà. Et j'ai trouvé que c'était bien. Et donc en même temps que mon héroïne Morissette, moi aussi je découvrais... le chant féminin. L'attrait pour Kathleen Ferrier et les Kinder Toten Leader, ça c'est quelque chose que j'ai toujours eu, mais j'ai découvert pas mal d'autres choses, et c'était bien pour moi d'apprendre en même temps, et grâce à Internet de pouvoir écouter et voir toutes ces chanteuses.
Et finalement, vous cheminez avec Morissette. Alors Morissette découvre la musique, mais par contre, les livres et la lecture qu'elle connaît depuis longtemps, c'est ça qui la nourrit.
Oui. Alors l'importance de sa bibliothèque. Et puis, dans La patience de Morissette, c'était déjà évident. Et là, dans le passage que je lis, on la voit qui fréquente cette librairie d'Hasbrook avec Blanche. C'est là qu'elles font connaissance, d'ailleurs. Elles avaient commandé le même livre et elles viennent le chercher le même jour ensemble. Bon, voilà, ce sont des choses qui arrivent, mais ça peut arriver quelquefois dans la vraie vie. Le fait qu'elle va rencontrer cette famille avec les enfants de Blanche, donc le fils aîné aussi, qui commence ses études à Lille en première année, en fac de lettres. Et donc, d'un seul coup, elle se rend compte que sa bibliothèque, elle va pouvoir la transmettre, elle va pouvoir transmettre des choses. C'est quelque chose qu'elle n'avait pas imaginé. Elle peut transmettre à son tour des choses, quoi. Voilà.
Et puis c'est une mamie branchée, hein, le pratique Internet, tout ça.
Oui, mais ça, si vous allez maintenant dans des maisons de retraite, il y a énormément de personnes âgées qui surfent sur Internet. Moi, je sais que, en ce moment, je m'amuse beaucoup avec mon compte Twitter, et je connais des gens très âgés qui ont un compte Twitter.
Tout le monde sait qu'on peut vous suivre sur Twitter. Donc tout le monde va chercher Lucien Suel sur Twitter. J'ai beaucoup aimé une phrase de Morissette qui dit « Vivre va prendre tout son temps. Donc finalement, il faut prendre le temps de vivre, ou c'est simplement que... Enfin, est-ce que vous pouvez nous expliquer cette phrase ?
En fait, c'est une des dernières phrases du livre. C'est-à-dire, en fait, à la fin du livre, elle n'éprouve plus le besoin de continuer à tenir son journal, quoi. Elle n'a plus de... Mais en fait, c'est ce qu'on a vu tout au long du livre dans son journal. Elle fait attention à toutes les choses, quoi. Elle fait attention à une araignée, etc. Mais seulement là, cette fois-ci, elle a pris conscience aussi... Bon, je ne veux pas non plus raconter qu'il y a quand même un événement dramatique dans le livre qui fait que, voilà, il y a aussi ce...
Parce que c'est quand même un roman.
Oui, c'est un roman, il y a une histoire. ça prend la forme d'un journal intime, mais c'est un roman avec de plusieurs personnages. Vivre à prendre tout son temps, je vois pas trop.
Mais finalement, elle a plus besoin de faire un journal parce qu'elle va vivre.
Voilà, c'est
réellement.
Ça. Oui.
Et c'est ça la leçon, finalement, si on pouvait dire qu'il y avait une leçon, prendre conscience de l'importance de la vie au présent.
C'est ça. En fait, si vous voulez, dernièrement, quelqu'un m'a dit que j'avais fait tenter la gageure d'écrire un livre sur le bonheur. Mais que ça passait, c'était crédible grâce à la façon dont c'était écrit, si vous voulez. Qu'il y a une adéquation entre... Il y a des passages aussi où on retrouve la fragilité de Morissette, où on sent qu'elle est...
Elle vacille un peu parfois.
Elle est, oui, borderline, comme on dit, quoi.
C'est vrai. Lucien Suel et Jean-Philippe Jacquemin, merci. Alors, je rappelle donc qu'il faut lire Blanche étincelle, paru à la Table Ronde cette année, et voir le film Le Jardin et le Poète le 12 octobre à 19h à la Contre-Allée, au 57 rue de Flers.